l'histoire. Actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, mais un vendredi différent puisque nous sommes aujourd'hui en direct de l'Institut du Monde Arabe à Paris à l'occasion des deuxièmes rendez-vous de l'Histoire du Monde Arabe. Trois jours de débats et de conférences donc à l'Institut du Monde Arabe autour d'une thématique d'actualité, religions et pouvoirs. On y parlera aujourd'hui par exemple dans des débats et des discussions de juifs et chrétiens en pays d'islam, de liberté de religion, de route, de pèlerinage, mais aussi de la politique arabe de la France à 11h avec Jean-Pierre Filiu, Dominique de Villepin et Hubert Védrine. Quant à nous, avec Anaïs Quien, ce matin nous allons aborder la politique de recherche de la France ou d'autres pays européens avec une question difficile: comment continuer à faire de la recherche de terrain quand guerre civile et régime autoritaire menacent la sécurité des chercheurs eux-mêmes. Nous le ferons en compagnie de deux jeunes chercheurs et chercheuses. Boris Jam, il est chercheur à l'Institut français du Proche-Orient, responsable de l'antenne de l'Institut français du Proche-Orient à Erbil. Et également Elena Chitty, elle est post-doctorante à l'Université d'Oslo et chercheuse associée au LARA à Lyon, un laboratoire, et elle a travaillé sur l'Égypte. Puis à la fin de l'émission, Catherine de Coppet nous présentera un nouveau numéro de sa chronique « La fabrique de l'autre » dans laquelle elle analyse un mot qui désigne un autre ou un groupe autre. Et bien aujourd'hui, le mot sera « Zoufri » et vous découvrirez avec elle ce que cela signifie. Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et bonjour à vous Boris Jam.
Bonjour.
Et bonjour Elena Chitty.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes spécialiste, je l'ai dit, de l'Égypte. Vous avez fait votre thèse, Elena, sur l'Égypte dite cosmopolite, celle des années 30 à 50, avant le départ de beaucoup d'Européens, d'Alexandrie en particulier. Et vous travaillez donc sur ce pays depuis longtemps. J'imagine que vous avez peut-être quelque chose à nous dire sur une émotion particulière liée à ce qui s'est passé hier. Accident, disait-on, ou attentat, on ne sait pas encore, à propos de cet avion d'Égyptair. Ça fait partie des risques, effectivement, aujourd'hui, de voyager, parce qu'on peut effectivement tomber sur une bombe dans un aéroport ou encore dans un avion. Mais ça n'est pas les risques dont on va parler aujourd'hui avec vous et avec Boris Jam et Elena Chitty.
Oui, en fait, je merci beaucoup de nous avoir invités. Déjà, je tenais à souligner le fait qu'il ne faudrait pas parler d'une spécificité du monde arabo-musulman en ce qui concerne les risques liés aux attentats ou à la recherche en contexte autoritaire ou en contexte de guerre civile. Je voudrais vraiment souligner le fait qu'il s'agit des risques qu'on peut courir dans beaucoup de pays, malheureusement dans beaucoup de pays du monde, et on le sait bien en France, en Europe aussi. Bien sûr, j'ai beaucoup d'émotions pour ce qui est en train de se passer en Égypte, non pas seulement pour la disparition de cet avion, mais aussi en général pour la situation politique, pour tout ce que les Égyptiens sont en train de vivre.
Et d'ailleurs, ce qui nous a donné l'idée de mettre ce thème en discussion aujourd'hui, c'est effectivement un événement d'actualité du mois de janvier dernier. C'est un jeune chercheur qui s'appelait Giulio Regeni, qui était un chercheur italien au Caire, qui a été enlevé le 25 janvier, dont le corps a été retrouvé le 3 février. Il avait 28 ans et ça a beaucoup ému. Non seulement ceux qu'il connaissait, je ne sais si vous le connaissiez pour l'avoir fréquenté au Caire, en l'occurrence Elena Chitty, mais ça a beaucoup ému aussi tous ceux et toutes celles qui sont responsables, qui se considèrent comme responsables de chaires de recherche, d'universités, de centres de recherche sur le monde arabe, parce qu'ils se sont dit, mais quel risque fait-on prendre à nos jeunes étudiants risquer de mourir après des tortures, puisqu'on sait qu'il a été torturé, Giulio Regeni, eh bien, c'est peut-être un risque que nous ne voulons plus faire courir à nos jeunes étudiants et étudiantes, Elena Chitty.
Oui, tout d'abord, je n'ai pas connu Giulio Regeni directement. J'ai des collègues, des copains, des amis qui l'ont fréquenté et côtoyé. C'était pas mon cas. Mais j'étais profondément émue. À la fois pour ce qui lui est arrivé, pour les tortures, pour son meurtre, mais aussi pour ma façon, pour ma propre réaction. Disons que je me sens doublement fautive, si j'y pense maintenant. D'un côté, comme vous l'avez dit, en tant qu'enseignante, depuis quelques années, j'enseigne au master de traduction éditoriale de l'arabe à Vicence, dans l'Italie du Nord. Et ça fait 4-5 ans, je dirais, que mes étudiants, parfois, me posent la question de savoir si, pour moi, une recherche de terrain en Égypte est encore faisable, envisageable. Et moi, je n'ai pas arrêté de dire, ça fait des années, que l'Égypte est un pays qui est plus dangereux pour les Égyptiens que pour les étrangers. Là, je me sens fautive parce que je me sens devoir, de quelque façon, trahir la confiance de mes étudiants en fournissant une analyse qui s'est révélée comme n'étant pas fondée. Et de l'autre, je me surprends moi-même et je pense qu'au moins, je peux dire qu'un pays est dangereux pour ses propres habitants,
oui,
comme
sûr.
Si c'était un constat, vous voyez, une banalité. Mm-hmm. L'Égypte est dangereuse pour les Égyptiens.
Anaïs Kien.
Et est-ce que justement, Elina Chiti, vous avez ressenti rapidement des effets institutionnels peut-être, c'est-à-dire des démissions à l'étranger de chercheurs qui auraient été refusés à la suite de cet événement?
Oui, ce n'est pas un fait totalement nouveau. Disons que c'est un fait qui est en train de s'aggraver, d'empirer. Il y a, par exemple, des chercheurs égyptiens. Je peux citer le cas de Atef Bousros, qui a désormais un passeport allemand, mais qui est d'origine égyptienne, et dont l'entrée en Égypte a été refusée. On lui a tout simplement nié les visas pour accéder au pays à l'aéroport.
Mais les universités européennes continuent d'envoyer leurs chercheurs, malgré tout, en Égypte, notamment.
Alors, c'est une bonne question, en fait. Je pense qu'il faut distinguer les choses. Il y a envoyer les chercheurs et envoyer les étudiants. Je vais parler, par exemple, du cas de l'université d'Oslo, où je travaille. J'ai beaucoup respecté la décision de la direction, qui a été la suivante. Donc, aucun chercheur n'a été forcé à aller en Égypte. Donc, en tant que chercheur professionnel, nous sommes libres d'y aller ou pas, même de refuser une mission si on n'est pas à l'aise, si on ressent que cette chape de plomb, pèse trop pour nous.
Parce qu'il faut bien préciser que cette Égypte d'aujourd'hui n'est pas l'Égypte d'il y a 4 ou 5 ans de la place Tahrir, c'est une Égypte sécuritaire,
oui.
Vous avez dit le mot tout à l'heure, et il est important de dire cela parce qu'effectivement, les risques que l'on encourt, ça n'est pas simplement les risques d'attentats, d'islamistes sur le territoire, par exemple, égyptien aujourd'hui, ce sont des risques qui sont liés peut-être à la police ou au service de sécurité, en l'occurrence.
Exactement. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus une politique de ne pas envoyer les étudiants en Égypte. En effet, c'est une Égypte sécuritaire. C'est une Égypte où les chercheurs sont considérés comme quelqu'un qui est dangereux en tant que tel, parce que en posant des questions, en interrogeant les sources, eh bien, ils remettent tout le temps en question, en tant que tel, les récits nationaux qui légitiment ces contextes autoritaires.
Anaïs Kien.
Oui, vous dites, Elina Chiti, qu'on ne peut pas obliger un chercheur à aller notamment en Égypte aujourd'hui du fait du danger, de l'inconfort que cela peut créer. Mais l'année dernière, dans la Fabrique de l'Histoire, nous avions invité de très jeunes chercheurs, tout juste diplômés, parfois même pas élus encore, qui nous disaient que malgré tout, ces chercheurs travaillaient tous sur le Sahel, c'est ce qu'ils avaient en commun. Donc, zone éminemment dangereuse en ce moment également, donc leur terrain était gravement compromis, et qui nous disaient, mais nous, on partira quand même, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que malgré le danger, malgré l'interdiction institutionnelle qui peut peser sur les demandes d'ordre de mission émanant des chercheurs demandant l'autorisation des laboratoires pour ces voyages-là, ils disaient, nous irons, sinon nous n'avons plus de travail.
Mais c'est ça, il faut distinguer en fait. Et il ne faut pas obliger les chercheurs à se rendre dans un terrain difficile. Mais si un chercheur professionnel, donc non pas un étudiant, je le souligne, si un chercheur professionnel veut s'y rendre, non pas parce qu'il craint de ne plus avoir un travail, mais aussi, il y a aussi d'autres faits à souligner. Il y a aussi un aspect de passion.
Ouais. Et il y a aussi, on ne choisit pas ces sujets par hasard, d'une certaine façon.
Non. Mais justement, peut-être qu'on est aussi un peu choisi par son sujet.
Mais justement, dans ce contexte d'un début de carrière, un début de recherche, on a éminemment envie de partir. C'est-à-dire qu'il y a une envie quand même très, très impérieuse de partir. On le sentait dans ce débat sur ce terrain du Sahel. C'est-à-dire que c'était impossible pour eux de dire qu'ils n'iraient plus. Et que quoi qu'il arrive, ils se disaient qu'ils iraient. Alors, en cherchant du réconfort dans leur connaissance du terrain, dans leurs relations locales, dans leur supériorité dans la connaissance du terrain par rapport à leur hiérarchie institutionnelle qui les mettait en garde contre ce type de voyage.
Bien entendu, il y a toujours un lien fort avec son terrain. Cela dit, il ne s'agit pas non plus de jouer Indiana Jones. Il y a des chercheurs qui sont des professionnels. Enfin, les chercheurs sont des professionnels. Et donc, la prudence, l'attention aux endroits et aux difficultés que posent les terrains sont toujours considérés et on ne les oublie pas.
D'abord, Hijam, vous êtes sur un terrain particulier par rapport à ce terrain égyptien qui est celui d'Hélène Achiti. Vous travaillez au Kurdistan. Vous êtes responsable du centre de l'Institut français du Proche-Orient d'Erbil. Alors, il faut préciser que l'Institut français du Proche-Orient est un institut très important avec beaucoup de chercheurs, dont un grand nombre ont été rapatriés de Damas il y a quelques années parce qu'ils devenait trop dangereux pour eux d'être à Damas. Ils sont soit à Beyrouth, soit à Amman en Jordanie, soit à Erbil, par exemple, comme vous. Mais néanmoins, Erbil, ça n'est pas non plus un quartier extrêmement calme, on peut le dire, même si le risque d'être sous la coupe d'un État autoritaire n'est peut-être pas le risque que vous encourez en tant que chercheur, Boris Jam.
Alors, j'ajoute quand même l'antenne de Jérusalem à la série que vous avez donnée. Disons que la préoccupation première du chercheur et des institutions françaises ou autres par rapport à l'activité scientifique dans un pays comme l'Irak n'est pas la question de la nature autoritaire du régime. C'est pas la préoccupation première. C'est évidemment la situation de guerre qui se joue aujourd'hui. Quand on est à Erbil, à 80 km, puisque Mossoul est à 80 km.
Et que Mossoul est aux mains de l'État islamique.
Voilà, est aux mains de l'État islamique depuis juin 2014. Et alors, sur la situation sécuritaire, il y a beaucoup de choses à dire, mais on a ce phénomène de Daesh, on a des incursions militaires qui ont été nombreuses et importantes jusqu'en septembre 2015, une situation avec des risques d'attentats qui ont été très importants. Encore une fois, jusqu'à septembre 2015. Aujourd'hui, on peut dire que la zone du Kurdistan, c'est-à-dire Erbil, Dohuk et Souleymaniye, sont des zones qui sont relativement stables en termes de sécurité.
Alors, vous êtes chercheur sur les Kurdes et les relations des Kurdes aux Arméniens au XIVe, XVe siècle. Donc, ça n'est pas de l'histoire immédiate que vous êtes en train de faire quand vous allez sur votre terrain de recherche. En quoi peut-on dire que travailler sur le XIVe ou XVe siècle est dangereux pour un chercheur? Parce qu'il y a le danger physique encouru, c'est ce qu'on disait avec Hélène Achiti, la possibilité que le sujet que l'on traite soit un sujet qui ne plaise pas à une autorité. Mais là, en l'occurrence, on se dit, y a-t-il un enjeu à travailler sur le XIVe, XVe siècle du Kurdistan, en l'occurrence, Boris Jam?
Évidemment, lorsqu'on travaille sur un peuple comme le peuple kurde et quand on produit finalement, on est acteur du récit national malgré soi ou non. Il y a forcément des implications politiques, mais je dirais pas qu'il y a un risque. Mais on est pris évidemment
dans un moment de l'histoire.
Voilà. Et évidemment là aujourd'hui, peut-être un peu moins aujourd'hui qu'il y a un an, la question du nationalisme kurde et la question de son socle historique était très importante. La question aussi, on l'a évoqué avant l'antenne, du rapport entre Kurdes et Arméniens, etc. C'est à la fois sensible, mais un chercheur qui travaille là-dessus
ne prend pas vraiment des risques. Mais c'est pour ça que je me permets d'ajouter quelque chose, c'est que quand on fait de la recherche aussi, on a des préoccupations intellectuelles et on tend à justement à faire de l'histoire objective ou de la sociologie objective, hein, pour simplifier les choses. Et je me rends compte que le moment justement de sécuritaire ou tendu là que nous vivons aujourd'hui dans le Moyen-Orient a des conséquences sur le focus intellectuel. C'est-à-dire que on a une espèce de tendance à se jeter sur les terrains dangereux, à explorer uniquement la dimension politique, voire militaire.
Et pourquoi ça justement? Pourquoi? Parce que le présent gouverne le travail du chercheur d'une certaine façon, ou le présent happe le travail du chercheur et l'attire vers ces terrains qui sont peut-être plus dangereux et plus risqués justement.
Je crois qu'il y a, pour reprendre les mots de Pierre-Jean Luisard, il y a un piège Daesh aussi pour le chercheur, c'est-à-dire une tendance à limiter son champ de vision et à ne pas s'intéresser aux lignes de fracture les plus intéressantes à mon sens et les plus cachées dans les sociétés du Moyen-Orient.
Anaïs Kien.
D'ailleurs, c'est le type de tendance qu'on décèle aussi dans l'attribution des crédits de recherche et des commandes, parfois même des institutions.
Mmh. Oui, bien sûr, très clairement, il y a cette chose-là.
Ça n'est pas seulement le chercheur qui peut se faire happer par ce danger Daesh, mais c'est aussi une facilité. Oui. De recherche qui est proposée par les institutions du fait de cette actualité.
Je crois que les chercheurs sont des gens aussi intelligents qui savent jouer des institutions et qui évidemment surfent sur des vagues. Mais j'espère que au final, ce qui se passe réellement dans la recherche, c'est pas que ça, que répondre à que se passe-t-il, est-ce que Daesh est
bien
là.
Bien sûr,
et
mais ça crée des tendances malgré tout.
Oui. La réponse est oui.
Oui, c'est d'autant plus paradoxal que on avait appris avec grâce à Anaïs Kien l'année dernière qu'il y avait des agents de sécurité qui travaillaient pour les grandes institutions de recherche et qui valident un départ en mission, qui disent non là, il n'est pas autorisé, vous n'êtes pas autorisé à partir, c'est trop dangereux, etc. Donc à la fois on flèche, pourrait-on dire, les recherches vers des terrains dangereux parce que ça nous permet de comprendre l'actualité. Et en même temps, on dit aux gens, non, il ne faudrait pas que vous y alliez ou vous n'avez pas le droit d'y aller parce que c'est trop dangereux de vous y envoyer. C'est un peu contradictoire, en l'occurrence, Boris Jamme.
Oui, c'est peut-être une contradiction salutaire parce que, justement, le fonctionnaire de sécurité de défense du CNRS permet de tempérer cette envie d'aller chercher le danger.
Après, c'était... alors, si je me souviens bien, les chiffres de l'année dernière, il m'avait annoncé qu'il avait 55 000 demandes d'ordre de mission, demande d'autorisation de mission, et qu'il avait délivré seulement 75 avis négatifs sur l'année passée. Donc on est vraiment dans des ratios très très faibles.
Bien sûr, oui. Mais il y a une chose qu'il faudrait rajouter là-dessus, c'est que aussi l'appréhension du danger, ce n'est pas une chose qui est, on n'a pas d'appréhension objective du danger. On est aussi énormément dans l'histoire et la sociologie de nos institutions qui vont avoir une connaissance, une expertise ou une histoire longue de l'expertise du renseignement à certains endroits et pas forcément à d'autres. Et donc ça crée aussi une appréhension différente.
Hélène Nachiti.
Oui, moi en fait je voulais juste préciser qu'il n'y a pas en fait des lignes rouges aussi bien définies. Mm-hmm. Je vais vous donner un exemple. Moi, une partie importante de ma thèse portait sur la Grande Guerre à Alexandrie.
Oui.
Donc, vous voyez, les siècles derniers. La façon dont on l'a vécu dans la ville, la crise économique, politique, et ainsi de suite. Alors, j'ai été invitée à un atelier à Alexandrie récemment. C'était en arabe, avec des collègues égyptiens. Et on nous a déconseillé de trop parler de la Grande Guerre en Égypte parce que c'était trop politique et dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, en fait, cette année, une prise de parole de la part de l'armée, des militaires, et du président Abdel Fattah al-Sissi, louant les rôles de l'armée égyptienne dans la Grande Guerre. Rôle qui n'a pas eu lieu, parce que à ce moment-là, l'Égypte était occupée par la Grande-Bretagne, donc il s'agissait d'un pays colonisé, et donc il n'y a eu aucun rôle officiel de l'armée égyptienne. Mais c'est quelque chose qui, tout se politise et tout devient délicat parce que tout fait partie d'un récit national qui légitime le pouvoir en place. Donc c'est aussi, on peut se retrouver à travailler sur les Kurdes du 15e siècle, à être visé parce qu'on est trop politique.
Et ça, effectivement, quand on entame une recherche, on ne l'imagine pas forcément. Au bout du compte, vous parliez des étudiants. Il faut mesurer si le sujet que l'on va traiter et qui va mettre 3, 5, 6 ans à être mûr d'une certaine façon, eh bien, ce sujet pourrait être dangereux pour sa sécurité, pourrait devenir un sujet politique et un sujet de débat qu'on ne maîtrise plus d'une certaine façon, Hélène Achiti.
Vous avez tout à fait raison. En fait, mes étudiants, je tiens à les souligner, ce sont des étudiants en traduction et en littérature en Italie. Mais comment leur dire maintenant que la littérature n'est pas un sujet délicat en Égypte quand il y a des écrivains qui sont emprisonnés.
Un extrait d'un titre de Dina El-Wedidi qui me dit Véronique Samilov, notre réalisatrice, est une chanteuse égyptienne contemporaine qui se produit sur ce qu'on appelle la scène indépendante au Caire. Alors évidemment, une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi y aurait-il un traitement particulier des chercheurs Boris Jeanne dans un pays en guerre ? Le chercheur a-t-il plus ou moins de chances de survivre ou de vivre dans ce pays en guerre ? Et au bout du compte, si d'autres gens sont tués autour de lui, sont menacés, sont enlevés, comme ça peut arriver, eh bien, pourquoi devrait-il être séparé de ce bain qui est le bain aussi du chercheur, c'est-à-dire la population dans laquelle il vit au quotidien, Boris Jam ?
Enfin, il faut dire qu'à Erbil et au Kurdistan de manière générale, au Kurdistan d'Irak, il y a assez peu de chercheurs. Voilà, il y a plus de journalistes que de chercheurs. Et bon, alors je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que évidemment, ces gens-là sont envisagés de manière très étrange, surtout quand on est sociologue, par exemple. Que font ces gens là ce sont de jeunes oisifs qui posent des questions à des gens.
Oui, des membres d'une agence de renseignement parce qu'il y a aussi cette duplicité possible.
Ah ouais, j'ai vécu plus longtemps en Syrie, et en effet en Syrie on avait plus ce retour là quoi sur le ce sont des espions, mais voilà.
Donc c'est le chercheur en tant qu'étranger finalement là qui pose question, c'est pas le chercheur en tant que tel.
Si, c'est aussi le chercheur en tant que quelqu'un qui pose beaucoup de questions.
Oui, mais au même titre qu'un journaliste par exemple ou qu'un auteur d'investigation.
Alors oui, mais la différence peut-être aussi avec le journaliste, c'est que le journaliste va avoir une attitude qui sera peut-être plus ouverte, plus ouvertement celle d'un journaliste. Un chercheur va peut-être vouloir cacher en partie la nature de son sujet, pour pas forcément pour des raisons de sécurité, mais pour peut-être pour des raisons de d'efficacité,
de méthodologie.
Donc on va peut-être le soupçonner plus facilement de ce point de vue-là.
Et Elena Chiti?
Oui, je pense qu'en guerre, un chercheur n'est pas visé en tant que tel. Il souffre des conditions d'insécurité du terrain. En contexte autoritaire, un chercheur est visé en tant que tel, je dirais, mais au même titre que un journaliste, un activiste, enfin tout le monde, tous ceux qui posent des questions maintenant en Égypte, non pas en tant qu'étranger, en tant qu'intrus. Donc un Égyptien qui sort de son quartier, qui va dans un autre quartier à poser des questions aux gens, il est considéré en tant que intrus, donc un danger. Il y a eu un porte-parole du gouvernement en février qui invitait les citoyens honorables à reporter à la police toutes ces activités suspectes.
Anaïs Kien.
Et quelles sont les réactions avec vos collègues chercheurs locaux en Égypte, c'est-à-dire après ce qui s'est passé très récemment, après cet assassinat? Que vous ont-ils dit? Ils vous ont dit surtout continuer à venir? Ou au contraire, peut-être qu'ils ont commencé peut-être à avoir peur pour eux-mêmes d'être en contact avec vous lorsque vous venez en Égypte pour faire vos recherches.
Très bonne question. En fait, il y a tous les cas de figure. J'ai des collègues égyptiens et des amis qui m'ont aidé, même au niveau psychologique, quand j'étais choquée, à parler, à surmonter les chocs, à chercher d'aller vers une réaction qui ne soit pas émotionnelle. Il y a des collègues qui ont prétendu avoir beaucoup de choses à faire pour ne pas me rencontrer en tant que, je souligne, non pas en tant que chercheuse, en tant qu'italienne en Égypte maintenant. Parce que après le meurtre de Giulio Regeni, il y a maintenant une propagande qui dit que, eh bien, l'Italie, comme on est en train d'insister pour demander vérité et justice suite à cet assassinat, eh bien, il y aurait un complot pour déstabiliser l'Égypte, parce qu'on ne comprend pas qu'on insiste autant pour un seul individu. Et moi, je comprends ces collègues qui ont refusé de me voir, parce qu'être en contact avec un Italien, maintenant, ça peut devenir dangereux.
D'autant que vous travaillez, après avoir travaillé sur l'Alexandrie du début du XXe siècle, vous travaillez maintenant sur les révolutions du monde arabe et leurs implications, enfin leur décor, le décor qu'elles peuvent donner à des œuvres littéraires contemporaines, par exemple. Et en travaillant sur ce thème-là, effectivement, vous vous rapprochez, Elena Chiti, du contemporain. Donc vous pouvez être accusé de vous intéresser trop à une actualité qui n'est plus l'actualité aujourd'hui du régime autoritaire en Égypte, qui était cette actualité d'il y a 4 ou 5 ans, au moment où il y avait les grandes manifestations, par exemple.
Tout à fait. Je pense que là, maintenant, tout sujet, mais comme je viens de le dire, qu'il soit du passé ou lié au très contemporain, devient délicat. Moi, je me souviens d'avoir écouté à l'ENS de Lyon, il y a quelques années, Elias Khoury, un grand intellectuel écrivain libanais, qui disait, pas comme moi, en fait, un chercheur, un intellectuel, il est toujours dangereux parce qu'il n'est jamais, il peut jamais soutenir un récit national ou politique ou autre à 100%. Mmh. Il sera toujours à 99% et puis il posera des questions et des questions et des questions.
Et vous travaillez sur un autre thème ces temps-ci, et vous me disiez avant l'émission que vous vous demandiez si vous alliez le mettre en œuvre, ce thème, parce que peut-être c'est un thème qui ne plairait pas en Égypte aujourd'hui, Elena Chiti.
Ouais, en fait, je suis en train de repenser aussi, je le dis en toute franchise, ce n'est pas quelque chose dont je suis fière, mais je me trouve à renégocier mon sujet de recherche. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pu continuer à travailler sur les histoires des crimes. Je voulais faire en fait quelque chose dans les sillages de la leçon de Dominique Khalifa, dont j'admire beaucoup les travaux sur les histoires des crimes de la France de la Belle Époque. Et je me disais que les histoires des crimes en Égypte, dans l'Égypte contemporaine, donc à la fois au travers de sources fictionnelles et non fictionnelles, auraient été un bon moyen pour apprendre quelque chose sur la construction de la morale publique. Mais bon, la morale publique, elle est liée au récit national, qui légitime les pouvoirs en place.
Et puis, qui dit récit de crime dit criminel, qui dit criminel dit celui qui poursuit le criminel. Et donc, dans la figure littéraire, on sait très bien, pour s'intéresser au roman policier, par exemple, que le roman policier ne prospère généralement pas du tout dans des régimes autoritaires. Et il faut un moment d'ouverture pour que ce roman policier puisse venir, puisque le principe du commissaire ou le principe de l'inspecteur, c'est d'aller dans toutes les couches de la société, du haut en bas, de prendre l'ascenseur social et de pouvoir raconter en coupe stratigraphique ce qu'est la société de ce pays-là, en l'occurrence Elena Chiti.
En fait, il faut souligner qu'il y a une spécificité dans le monde arabe, mais aussi j'ai parlé de cela avec des collègues qui s'intéressent à la littérature chinoise, c'est-à-dire un roman... On dit un roman policier, mais c'est plutôt un roman criminel, où parfois la figure, par exemple, de l'agent de justice, du commissaire et du criminel se recoupent. Et c'est un peu la même chose. Donc, on dirait plutôt ici, selon nos catégories, un roman noir.
Boris Jem, alors vous n'êtes pas du tout sur les questions de police ou de poursuite des criminels dans ce territoire kurde, mais néanmoins, il y a une question qui était posée tout à l'heure par Anaïs Kien, à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu. Ces centres de recherche européens dans ces pays sont des restes, pourrait-on dire, des emprises coloniales. Ils ont été créés, la plupart d'entre eux, ces centres de recherche, au moment des périodes coloniales. Et on est porteur, malgré soi, de cette histoire coloniale. C'est-à-dire que lorsque Boris Jam arrive à Erbil, il n'est pas simplement Boris Jam cherchant sur le Kurdistan du XIVe siècle. Il est aussi un Français héritier d'une institution elle-même née au temps de la colonisation. Ça n'est pas si simple que ça.
Alors oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Et en effet, alors je ne suis pas Boris Jam quand j'arrive sur le terrain, mais ça ne, disons que justement, enfin l'aspect extrêmement institutionnel de mon travail m'embête pour faire mon travail de chercheur, mais ne m'embête pas dans mon insertion sociale ou politique à Erbil. Au contraire, il y a la construction kurde qui est en train de se jouer en ce moment appelle justement plus d'institutions étrangères sur place, appelle plus d'implications.
Comme si l'État en construction avait besoin d'être légitimé par des centres de recherche étrangers, des ambassades étrangères, des représentations diplomatiques étrangères.
On a des retours extrêmement bons. Et surtout bon, voilà, quand on fait de l'archéologie, quand on fait de l'histoire, pour l'instant, ne se joue pas la question. Je ne dis pas, évidemment, j'ai peut-être laissé penser qu'il n'y avait pas de situation autoritaire en Irak et au Kurdistan. C'est pas du tout le cas, évidemment. Il y a de la répression, voilà. Mais on n'est pas encore dans une phase, on va dire, on en parlait avec Elena. Chilienne, où vraiment on aurait un autoritarisme qui vraiment n'a plus rien à faire de la question diplomatique ou voilà et qui peut assassiner un jeune chercheur
en toute liberté.
Voilà.
Anaïs Kien.
Et comment cela se passe avec les chercheurs locaux dont on a commencé à parler tout à l'heure. Je pense à une tribune qui est parue le 14 avril dans Le Monde, une tribune signée par des chercheurs étrangers qui travaillent en coopération avec des chercheurs du Burundi et qui, tout en dénonçant la violence d'État qui existe au Burundi et les problèmes posés à la liberté de parole, se terminait en disant « Que voulez-vous que l'on fasse ?» C'est-à-dire ces collègues étrangers qui posaient la question aux chercheurs burundais en disant « Voulez-vous qu'on poursuive ces programmes officiels de coopération ou qu'au contraire, on entre dans une phase de protestation institutionnelle ? Est-ce que cela vous aiderait ?» Et en même temps, on entend bien l'inquiétude de ces chercheurs étrangers qui disent également « Mais c'est aussi une manière de nous séparer de vous, c'est-à-dire d'interrompre ces liens qui peut-être, d'une certaine façon, à la fois peuvent vous protéger, mais aussi vous mettre en danger. »
Oui, les retours, là encore une fois, c'est l'activité scientifique, elle est
assez institutionnel. Il n'y a pas vraiment, je veux dire, on n'a pas encore aujourd'hui au Kurdistan, peut-être plus dans le sud de l'Irak et peut-être plus à Bagdad, des intellectuels qui vont constituer un fond politique de contestation politique. Nous, en tant qu'institution étrangère ou en tant que chercheur, on ne vient pas en appui ou en opposition de ces
bien
gens-là.
Bien sûr, mais là, il ne s'agissait pas du tout d'opposants politiques. Mmh. Hein. Il s'agissait simplement de chercheurs et d'identifier un contexte qui permet la recherche ou qui ne la permet pas. Quelles que soient les opinions politiques, finalement, du chercheur en tant que tel.
Très clairement, là, aujourd'hui, justement, au Kurdistan, alors, ce qu'il fallait dire, c'est la crise budgétaire, financière et économique que vit le Kurdistan et l'Irak, de manière générale, fait que, pour faire de la recherche, il faut l'appui d'institutions étrangères, pour faire vraiment de la recherche, si vous voulez. On nous dit, venez et financez. Voilà,
mm-hmm. Elena Chiti, sur ce point.
Je voulais juste peut-être souligner le fait qu'il est, comme Boris a commencé à le dire, en fait, un chercheur n'est pas un opposant. Et donc, s'il remet en question tout le temps les récits nationaux, eh bien, il va remettre en question aussi les récits de l'opposition, les récits attitrés. Parce qu'on l'a vu, par exemple, en Syrie, il y a de deux côtés, il y a une propagande.
Oui, mais on voit bien aussi, et c'est ce que sous-entendait la question d'Anaïs Quin, on voit bien aussi que les liens se tissent au fur et à mesure du temps entre chercheurs venant de l'étranger et chercheurs du pays. Au bout du compte, on devient amis, on se connaît, etc. Et dans cette prévention qu'avaient les chercheurs spécialistes du Burundi à continuer à travailler au Burundi, il y a cette idée que peut-être on va finir, si on continue à travailler dans ce pays-là, en tant qu'étranger, par mettre en danger nos propres amis, d'une certaine façon.
Et par cautionner un État à travers des contrats d'État et des politiques d'État.
En fait, il faut aussi, bien sûr, la question est compliquée et très délicate. Je pense qu'il y a une coopération institutionnelle, qui est une chose, et puis qu'il y a une coopération de terrain qui s'installe dans les quotidiens, comme vous le disiez, en tissant des liens avec des collègues sur place. Collègues sur place, à mon avis, il ne faut pas abandonner, ils vont rester là-bas. Ils n'ont pas le choix qui nous est donné. Est-ce que je peux quitter mon terrain ? Quand on y habite, on ne peut pas quitter son terrain.
Et une autre des questions, c'est finirait-on par faire parfois une histoire ou des recherches en sciences sociales en chambre, Maurice Jam, c'est-à-dire comme les découvreurs du XVIe siècle se faisaient fournir par des voyageurs des bribes de cartes qu'ils rassemblaient pour faire au bout du compte un travail de recherche. Eh bien, est-ce qu'il faudrait rester dans son centre de recherche européen et puis se dire, ben voilà, on va avoir des informateurs qui vont nous apporter des informations et on va travailler à distance. Alors que le plaisir, j'imagine, du terrain, c'est aussi de croiser des gens, des regards, de manger la cuisine locale, de discuter avec les gens sur place et au détour d'une conversation, de découvrir quelque chose qui vous éclaire, qui éclaire votre sujet de façon nouvelle.
Alors oui, non au cabinet de curiosité et autre chose, même si ça fait partie de l'histoire de l'Europe, voilà, du 18e et autres. Mais il faut. Alors l'un des atouts, il faut que je fasse de la publicité pour mon institution. L'un des atouts de l'IFPO, c'est quand même, par exemple, d'avoir formé sur plusieurs générations des chercheurs que nous envie le monde entier. La recherche du monde entier dit les Français, grâce à l'IFPO, mais pas que l'IFPO,
l'Institut français de recherche sur le Proche-Orient. Donc, Michel Serin était à l'IFPO quand il a été enlevé au Liban.
Il était certainement plutôt au CERMOC, puisque l'IFPO n'existait pas. L'IFPO existe depuis 2007. Mais voilà, donc, et moi-même, dans ma vie, alors j'aurais pu faire ma thèse et continuer mes recherches à la BNF en tapant sur mon ordinateur et ne jamais aller au Moyen-Orient. Et il se trouve que j'ai préféré vivre 7 ans en Syrie et puis après à partir en Irak. Je pense que justement ce rapport intime, physique, comme vous le disiez, est ultra important et pour pour comprendre des phénomènes qu'on pourrait comprendre d'ici aussi. Mais
surtout quand on s'intéresse comme vous, Elena Chiti, à la langue, à la poésie, à la façon dont on parle la langue aujourd'hui dans ces pays comme l'Égypte, puisque vous travaillez sur les poètes aussi, vous êtes traductrice de poètes. Donc j'imagine qu'effectivement, cette permanence, ce bain culturel dans lequel vous vous baignez par la langue, c'est très important pour vous, Elena Chiti.
Oui, et j'en profite pour faire moi aussi un peu de pub. Pour mon institution, j'ai fait mon doctorat, donc l'IREMAM. En fait, c'est il y a à Aix-Marseille.
Grand centre de recherche sur ces questions.
Oui, et ce que j'ai appris là-bas, c'est non pas seulement en tant que traductrice, donc que personne qui s'intéresse à la littérature, mais aussi en tant qu'historienne. Il est très important de se souvenir qu'il y a non pas seulement un plaisir du terrain, mais un devoir du terrain aussi. Donc, quand on fait de la recherche sur le monde arabe, eh ben, on parle arabe et on s'efforce d'aller voir les sources sur place.
Oui, on parle arabe et vous parlez beaucoup d'autres langues. Et puis, saluons votre polylinguisme, je ne sais pas comment on pourrait dire, Borija, vous parlez anglais, italien, espagnol, arabe, kurde, persan, vous comprenez l'hindi, vous avez des notions de turc et d'arménien, enfin, ça fait beaucoup. Est-ce que c'est aussi nécessaire que cela dans un contexte justement de travail dont on dit aujourd'hui que l'histoire devient connectée, globale, mondiale et que des maîtres dans cette discipline comme Sanjay Subramaniam sont réputés parler 10 langues à la fois. Est-ce que c'est aussi nécessaire que cela pour pouvoir justement s'insérer dans ce tissu de recherche qui est le vôtre, Boris Jam?
J'allais dire que vous fréquentez peut-être trop Romain Bertrand. Non, oui, enfin c'est alors surtout là dans le monde kurdo-arabe, si vous voulez, c'est ultra important de pouvoir parler plusieurs langues pour justement pour travailler les interstices quoi et pas que les gros blocs, les gros monolithes qu'on va transférer d'une langue à une autre, d'une culture à une autre. Il faut pouvoir écouter et vivre
C'est ce que vous appelez l'entre-deux kurde dans votre travail. En l'occurrence, ça n'a pas exactement le même sens, mais c'est d'être entre-deux. Oui. Effectivement, les Kurdes sont entre-deux, expliquez-vous dans votre travail de recherche. Mais effectivement, le chercheur se retrouve aussi entre deux ou trois ou quatre ou cinq types d'acteurs avec des cultures différentes, puisque vous travaillez sur les frontières, en particulier, Boris Jam.
Oui, alors bon, ça c'est une autre chose. Mais l'histoire du Kurdistan et de la constitution d'un espace kurde, c'est cette histoire justement de l'interstice, de l'entre-deux entre deux énormes espaces de grands nomades, les nomades turco-mongols d'un côté, et puis les Arabes de l'autre, mais on a aussi des entre-deux sociopolitiques, des entre-deux justement la nature de l'espace kurde, c'est d'être fragmenté, c'est ce qui fait sa différence aussi, et c'est ce qui m'a intéressé. Voilà.
L'hirondelle, morceau de musique traditionnelle, dit-on, du Moyen-Âge arménien. Pour introduire votre chronique, La fabrique de l'autre, Catherine de Copé. Rappelons à nos auditeurs ce qu'est cette chronique, Catherine. Bonjour. C'est donc une chronique mensuelle qui part d'un mot qui désigne un autre ou un groupe de personnes et vous en profitez pour plonger dans un pan d'histoire.
C'est ça.
Et aujourd'hui, à l'occasion des rendez-vous de l'histoire du monde arabe, vous avez choisi de vous arrêter sur un mot qui n'est pas du Proche-Orient, mais un mot du Maghreb, le mot Zoufri. notamment parce qu'il fait le pont entre l'arabe et le français, Catherine.
Oui, c'est un terme à la croisée de ces deux langues et dont l'histoire est relativement récente. Selon le linguiste Fouet de Laroussi, le mot « zoufri » a émergé en Tunisie à l'époque de la colonisation française, qui, pour rappel, a duré de 1881 à 1956 dans ce pays. Alors, « zoufri » serait une déformation passée dans l'arabe tunisien du français « ouvrier ». Et c'est le mot au pluriel « les ouvriers » qui aurait donné naissance aux « zoufri » par une sorte de transposition phonétique, comme vous l'entendez. Ces ouvriers en question étaient issus de la population locale et travaillaient au service des colons pour l'exploitation agricole. Et c'est là qu'un glissement sémantique s'est opéré. Le terme « zoufri » a fini par désigner en arabe tunisien le voyou, le bandit, le gangster. Il est même présent dans des clips de rap contemporains. Mmh. Et donc, selon Fouet de Laroussi, les saccages d'exploitation et les vols de récoltes, notamment d'olives à l'époque de la colonisation perpétrés par certains ouvriers, expliqueraient, en tout cas seraient à l'origine de ce changement de signification progressif. Comme le souligne ce linguiste, on parle souvent d'emprunt linguistique pour désigner le passage d'un mot d'une langue à une autre. Or, de fait, ces emprunts n'en sont pas, puisque la langue qui emprunte, ici l'arabe, ne restitue pas le mot, elle le fait sien. Mais dans le cas de zoufri, on assiste à une sorte de voyage-retour du mot vers la France, et c'est en cela que son parcours m'a particulièrement intéressé.
Et oui, la transposition du mot zoufri dans le français nous plonge dans l'histoire, non pas celle de la colonisation, mais celle de l'immigration, Catherine.
Oui, il est assez difficile de dater à partir de quel moment le mot zoufri traverse la Méditerranée, mais le nouveau sens qu'il va prendre alors nous donne quelques indications. Le terme zoufri désigne dans le langage des quartiers populaires, en France, l'immigré maghrébin de la première génération, et par extension, tout individu pouvant être classé dans la catégorie arabe par celui qui parle. Les différentes études ou dictionnaires qui recensent les mots des quartiers parlent de zoufri comme d'une catégorie qui renvoie à cette communauté d'appartenance, fantasmée ou revendiquée, de la même façon que le mot beurre, rebeu, mais aussi zouafra, à l'origine le pluriel de zoufri. Et donc ce qui est assez étonnant, c'est que le terme émerge très peu des études historiques sur l'immigration en France. Les seuls travaux qui soulignent l'importance du zoufri comme une figure incontournable de l'immigration et de son histoire, ce sont ceux du sociologue Ahmed Boubekeur, qui a beaucoup travaillé notamment sur la place des générations descendants d'immigrés, notamment algériens, dans la société française. Alors que nous dit Ahmed Boubekeur ? Il a tenté de reconstituer l'évolution symbolique de la figure du zoufri à travers l'histoire contemporaine. Ainsi, le zoufri va d'abord désigner les premiers immigrants du Maghreb, considérés au pays comme des pionniers, ceux qui ouvrent la voie et qui portent l'espoir d'un avenir meilleur. Et ce, dès la première partie du XXe siècle, mais plus encore, évidemment, à partir des années 50. Le zoufri s'installe, comme vous le savez, à la périphérie des villes, là où il est relégué, et son quartier devient un point de repère qui permet d'atténuer la difficulté de l'exil, et aussi, paradoxalement, un petit monde sur lequel les proches restés au pays fantasment. Le quartier participe ainsi de ce qu'Ahmed Boubekeur appelle un imaginaire utopique de l'immigration comme lieu-refuge. Il montre cependant, Ahmed Boubekeur, très bien comment, assez rapidement, la figure du zoufri se trouve enfermée dans ses propres murs par une exclusion réciproque entre immigration et société française. La société française va pendant longtemps réduire l'immigration à sa seule condition laborieuse, et de leur côté, les zoufris en question vont entretenir le mythe improbable du retour et défendre une mémoire commune du pays et des traditions.
Ce qui va conduire d'ailleurs à créer une image du zoufri dont il est maintenant difficile d'hériter.
L'exclusion réciproque, là, dont on a parlé, a conduit à un isolement qui a pesé fortement sur les générations suivantes. Pour ces générations, la figure du zoufri est particulièrement ambivalente. Alors, fallait-il poursuivre les rêves des pères pionniers? Et qu'est-ce que ça signifie? Comment on poursuit ces rêves? La volonté de s'extraire des quartiers pour sortir de la relégation sociale dès les années 1980 peut être vue comme une continuation de ces rêves d'émancipation, mais aussi comme une opposition à la tradition des parents. Et c'est ainsi que dans les années 80, la figure du zoufri a laissé la place à celle peut-être plus connue du beurre, une appellation que se donneront les enfants d'immigrés eux-mêmes dans une recherche de visibilité et de cohésion presque ironique. L'analyse d'Ahmed Boubekeur permet in fine de prendre la mesure du poids des représentations liées à l'immigration qui empêchent jusqu'à aujourd'hui les descendants de zoufri de sortir d'une sorte d'identité commune qu'on leur attribue a priori en l'associant en plus à une culture des origines. Oui. Les descendants d'immigrés sont finalement considérés encore comme des immigrés ou des étrangers à la société française qui souffriraient de difficultés d'intégration. Alors d'autres analyses sont venues montrer depuis à quel point l'immigration fait l'objet d'un discours où les catégories sont reines, plus que les individus, ce qui a tendance, de fait, à exacerber l'altérité et le rejet. De quoi se demander si le zoufri et ses descendants pourront un jour sortir du piège de l'invisibilité ou de la visibilité problématique.
Eh bien, merci de nous avoir fait découvrir à la fois le mot et tout ce que ce mot recouvrait, donc le mot zoufri. Catherine Decopé, dans votre chronique La fabrique de l'autre,
merci.
Et merci à Elena Chiti d'avoir été avec nous, à Anaïs Quien d'avoir co-animé ce débat avec moi, à Boris Jam d'avoir été avec nous. Si on veut vous lire, Boris Jam et Elena Chiti, on va voir quoi exactement pour pouvoir justement savoir ce que sont, non pas l'attitude que vous devez avoir sur le terrain, mais ce que sont vos recherches, Boris Jam?
Alors, je sors très bientôt un article, enfin un chapitre d'un ouvrage aux presses de Cambridge sur les Kurdes entre Mongols et Mamelouk. Voilà.
Et pour vous, Elena Chiti?
J'ai sélectionné un ouvrage que j'ai coédité avec deux collègues, Touria Filitulon et Blandine Valfort, qui s'appelle « Écrire l'inattendu, les printemps arabes entre fiction et histoire ». C'est aux éditions Academia. Et après, il y a mes pages personnelles au Lara et à Oslo.
Voilà. Merci en tous les cas d'être venus tous les deux et nous exposer aussi clairement ces questions à l'occasion de ces rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses à écouter ici à l'Institut du monde arabe. J'ai sélectionné la pluralité des langues. C'est tout de suite avec Mehdi Gouergat, Benoît Grévin et Etienne Anam sur les langues d'islam et sociétés médiévales. Ou tout à l'heure à 11h, la politique arabe de la France, Jean-Pierre Filu, Dominique de Villepin, Hubert Védrine, les femmes dans l'islam, tout à l'heure, concordance des temps, ici, enregistré à 12h30 de Jean-Noël Jeannet avec Leïla Dakli. Et auparavant, il y aura eu Culture Monde, Anaïs Kien.
Et oui, et dimanche, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, voyage dans un carton d'archives, double lecture des archives personnelles du palestinien Roui Al-Khalidi, avec Mathias Hénard, Leïla Dakli et Vincent Lemire.
Oh, ça va être encore un exercice d'histoire, voilà. Ça, j'ai l'impression. Et puis tout à l'heure, en début d'après-midi, à 14h, ma thèse en 5 minutes des 9 doctorants des associations Diwan et Halka qui viennent présenter très brièvement leur travail en cours. Et ce soir, conférence inaugurale avec un essai d'histoire immédiate avec la membre de ceux qui ont reçu le prix Nobel de la paix 2015 en Tunisie, Widad Bouchamaoui. Merci et bon rendez-vous de l'histoire du monde arabe ici. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vena Bolivier et Aurélie Marseille. Il nous faut remercier ici en particulier tous les services de l'IMA, mais également Shirin El-Messiri qui a suivi la préparation de cette émission depuis le début, le service de communication ici de l'IMA ainsi que le service de France Culture à la technique aujourd'hui, Alexandra Bergel, Gilles Manet, Yvan Charby, Rémi Gouriou et à la réalisation Véronique Samouilov. La semaine prochaine, nous vous parlerons du baccalauréat, préparation du baccalauréat d'histoire géographie. Ça sera dans la fabrique de l'histoire à partir de lundi.